Chapitre 11. Le mensonge. Plusieurs mois s'écoulèrent avant que Rolf Vanderberg puisse de nouveau consacrer sa réflexion et son énergie au monde Zeus. L'aménagement de Ganymède lui avait pris tout son temps, et il lui arrivait de s'absenter des semaines durant de son bureau principal de la base de Dardanus pour arpenter la voie du futur monorail Gilgamesh-Osiris. La géographie du troisième et plus grand satellite galiléen avait radicalement changé depuis l'explosion de Jupiter et continuait de se transformer. Le nouveau soleil qui avait fait fondre la glace d'Europe n'était pas aussi puissant à cette distance, 400 000 km plus loin, mais il était assez chaud pour fournir un climat tempéré à la face perpétuellement tournée vers lui. Il y avait de petites mers peu profondes, dont une aussi grande que la Méditerranée, jusqu'à 40 degrés de latitude nord et sud. On ne reconnaissait plus grand-chose des cartes tracées par les missions voyageurs du XXe siècle. La fonte du permafrost et les mouvements tectoniques occasionnels déclenchés par les efforts conjugués de l'attraction des deux autres lunes proches de Jupiter faisaient de la nouvelle Ganymède un cauchemar pour les cartographes. Mais ces mêmes facteurs en faisaient un paradis pour les ingénieurs planétaires. C'était le seul monde, en dehors de Mars, aride et très peu hospitalier, sur lequel l'homme marcherait peut-être un jour sans avoir à se protéger sous un ciel dégagé. Ganymède regorgeait d'eau, de tous les composants chimiques de la vie et, tout au moins quand Lucifer brillait, son climat était plus chaud que celui de la Terre. Surtout, les combinaisons spatiales intégrales n'étaient plus nécessaires. L'atmosphère, bien qu'encore irrespirable, était assez dense pour qu'on puisse se contenter de simples masques et de bouteilles d'oxygène. Dans quelques dizaines d'années, promettaient les microbiologistes, tout en restant plutôt vagues sur les dates précises, on pourrait même s'en passer. Des cultures de bactéries génératrices d'oxygène avaient déjà été entreprises à la surface de Ganymède. La plupart avaient échoué, mais certaines étaient florissantes, et à tous les visiteurs de Dardanus, on exhibait fièrement la courbe en lente élévation de l'analyse atmosphérique. Pendant longtemps, Vanderberg garda un œil vigilant sur les informations en provenance d'Europa 6, dans l'espoir qu'un jour les nuages se dégageraient encore au moment où l'orbite du satellite l'amènerait au-dessus du monde Zeus. Il savait que les chances étaient infimes, mais tant que cela restait du domaine du possible, il ne fit aucun effort pour explorer d'autres domaines de recherche. Rien ne pressait. Il avait sur les bras un travail beaucoup plus important, et d'ailleurs, l'explication risquait de se révéler banale et sans intérêt. Et puis, Europa 6 disparut subitement, sans doute à la suite d'un impact météorique. Sur Terre, Victor Willis se ridiculisa, de l'avis général, en interviewant les eurodingues qui remplissaient à merveille le vide laissé par les amateurs d'OVNI du siècle précédent. Certaines personnes affirmaient que la disparition de la sonde était due à une action hostile des habitants d'Europe. Le fait qu'ils l'eussent laissé fonctionner sans intervention pendant 15 ans, près du double de son existence prévue, ne les gênait pas du tout. Il faut dire, à l'honneur de Victor, qu'il souligna ce point et démolit la plupart des autres arguments des cultistes, mais tout le monde s'accordait à penser qu'il n'aurait jamais dû leur donner une telle publicité. Pour Vanderberg, qui aimait bien que ses confrères l'appellent le Hollandais têtu et faisait de son mieux pour mériter ce surnom, la fin d'Europa 6 était un défi irrésistible. Il n'y avait pas le moindre espoir de crédit pour le remplacer, car le brusque silence de cette sonde inutilement bavarde et à la longévité embarrassante était, pour les savants, un soulagement considérable. Alors, quel choix lui restait-il? Vanderberg considéra les différentes options possibles. Comme il était géologue et non astrophysicien, il lui fallut plusieurs jours pour se rendre compte que la solution lui sautait aux yeux depuis qu'il avait atterri sur Ganymède. L'Afrikaans est une langue riche en jurons. Vanderberg jura et pesta pendant quelques minutes, puis demanda la communication avec l'observatoire de Tiamat, situé juste sur l'équateur, à la verticale du minuscule disque éblouissant de Lucifer. Les astrophysiciens, qui s'occupent des objets les plus considérables de l'univers, ont tendance à traiter avec condescendance les simples géologues qui consacrent leur vie à de petites choses malpropres telles que les planètes. Mais là, dans les marches, à la frontière, tout le monde s'entraidait et le professeur Wilkins se montra non seulement intéressé, mais aussi d'un grand secours. L'observatoire de Tiamat avait été construit dans l'unique intention d'étudier Lucifer. C'était d'ailleurs un des motifs de l'établissement d'une base sur Ganymède. Étude d'une importance capitale, non seulement pour la recherche fondamentale, mais aussi pour les ingénieurs nucléaires, les météorologues, les océanographes et, surtout, les hommes d'État et les philosophes. Que des êtres fussent capables de transformer une planète en soleil, c'était une pensée affolante qui empêchait bien des gens de dormir. L'humanité devait donc apprendre tout ce qu'elle pourrait sur ce processus. Un jour, on aurait peut-être besoin de le reproduire ou de le combattre. Ainsi, depuis plus de 10 ans, Tiamat observait Lucifer avec tous les types d'instruments possibles, enregistrait continuellement son spectre dans toute la gamme de fréquences électromagnétiques et le sondait aussi, activement, au radar depuis une modeste antenne parabolique de 100 mètres, jetée en travers d'un petit cratère météorique.
« Oui, répondit le professeur Wilkins, nous avons souvent examiné Europe et Io. Mais notre faisceau est braqué sur Lucifer, alors nous ne les apercevons que quelques minutes lorsqu'elle le traverse. Et votre monde Zeus est justement sur la face diurne, si bien qu'il est toujours caché à ce moment-là.
« Je comprends bien, » s'écria impatiemment Vanderberg.
« Mais est-ce que vous ne pourriez pas dévier légèrement le faisceau de manière à jeter un coup d'œil sur Europe avant qu'elle n'arrive en ligne ? 10 ou 20 degrés vers la face éclairée suffiraient amplement. »
« 1 degré suffirait pour rater Lucifer et avoir Europe de face sur l'autre côté de son orbite. Mais à ce moment, elle serait 3 fois plus éloignée, alors nous n'aurions qu'un écho 100 fois plus faible. Ça pourrait marcher, quand même.
Nous allons essayer.
Donnez-moi les spécifications en matière de fréquence, de diagramme d'émission, de polarisation. Tout ce que vos spécialistes de la télédétection jugeront utile. » Il ne nous faudra pas longtemps pour installer un système de déphasage qui fera glisser le faisceau de 2 ou 3 degrés. Au-delà, je ne peux rien dire. C'est un problème que nous n'avons jamais considéré. Nous aurions dû, peut-être. Enfin, qu'est-ce que vous espérez trouver sur Europe, à part de la glace et de l'eau ?
Si je le savais, répliqua gaiement Vanderberg, je ne demanderais pas d'aide, n'est-ce pas ?
Bon, je ne revendiquerai pas tout l'honneur quand vous publierez vos résultats.
« Dommage que mon nom soit à la fin de l'alphabet, mais vous ne me précéderez que d'une lettre. »
Il y avait de cela 1 an. Les observations à longue portée n'avaient pas été très bonnes et le décalage du faisceau pour regarder la face diurne d'Europe juste avant la conjonction s'était révélé plus difficile que prévu. Mais enfin, les résultats étaient là. Les ordinateurs les avaient digérés, et Vanderberg fut le premier être humain à contempler une carte minéralogique d'Europe post-Lucifer. C'était, comme l'avait dit le professeur Wilkins, essentiellement de la glace et de l'eau, avec des éperons de basalte parsemés de dépôts de soufre. Mais il y avait 2 anomalies. L'une d'elles semblait provenir d'un défaut du système de génération. Il y avait un trait absolument rectiligne de 2 km de long qui ne renvoyait virtuellement pas d'écho radar. Vanderberg laissa le professeur Wilkins se casser la tête là-dessus. Lui-même ne s'intéressait qu'au monde Zeus. Il avait mis longtemps à procéder à l'identification parce que seul un fou ou un scientifique vraiment désespéré aurait jamais rêvé à une telle possibilité. Encore à présent, en possession de tous les paramètres vérifiés aux limites de la précision, il n'y croyait pas réellement. Et il n'avait même pas tenté d'envisager la suite. Quand le professeur Wilkins téléphona, avide de voir son nom figurer dans toutes les banques de données, il marmonna qu'il était encore en train d'analyser les résultats. Mais, finalement, il ne put reculer davantage.
« Rien de bien passionnant, » dit-il à son confrère. « Simplement une forme assez rare de quartz. Je cherche encore un équivalent parmi les échantillons terrestres. »
C'était la première fois qu'il mentait à un confrère scientifique et il en éprouvait un terrible remords. Mais quel autre choix avait-il ?